L'arrivée du comte Robert.
Une douzaine de cavaliers venant de Doullens et conduits par un géant en cotte d'armes rouges traversèrent au galop le village de Bouc-Maison et puis s'arrêtèrent à Saint-Oise de là. La vue depuis cet endroit découvrait un vaste plateau de terre à blé coupé de vallonnements, de hêtraies et qui descendait par paliers vers un horizon de forêt.
« Ici commence l'Artois, monseigneur, »
dit l'un des cavaliers, le sergent de Varennes, en s'adressant au chef de la troupe.
« Mon comté ! Voici enfin mon comté !» dit le géant. « Voici ma bonne terre, que depuis 14 ans je n'ai pas foulée !»
Le silence de midi s'étendait sur les champs écrasés de soleil. On n'entendait que la respiration des chevaux soufflant après l'effort et le vol des bourdons ivres de chaleur. Robert d'Artois sauta brusquement à bas de sa monture, dont il lança la bride à son valet Lormet, grimpa le talus en écrasant les herbes, et entra dans le premier champ. Ses compagnons restèrent immobiles, respectant la solitude de sa joie. Robert avançait de son pas de colosse à travers les épis, déjà lourds et dorés, qui lui montaient aux cuisses. De la main, il les caressait comme la robe d'un cheval docile ou les cheveux d'une maîtresse blonde.
« Ma terre, mon blé !» répétait-il.
On le vit soudain s'abattre dans le champ, s'y étendre, s'y vautrer, s'y rouler follement parmi les graminées comme s'il voulait s'y confondre. Il mordait les épis à pleines dents pour trouver au cœur du grain cette saveur laiteuse qu'il a un mois avant la moisson. Il ne sentait même pas qu'il s'écorchait les lèvres aux barbes du froment. Il s'enivrait de ciel bleu, de terre sèche et de parfum des tiges crissantes, faisant autant de ravages à lui seul qu'une compagnie de sangliers. Il se releva, superbe et tout froissé, et revint vers ses compagnons le poing serré sur une glane brutalement arrachée.
« Lormet ! » commanda-t-il à son valet. « Dégrafe ma cotte ! Délasse ma broigne !»
Quand ce fut fait, il glissa la poignée de blé sous sa chemise, à même la peau.
« Je jure Dieu, messeigneurs, » dit-il d'une voix éclatante, « que ces épis ne quitteront point ma poitrine, que je n'ai reconquis mon comté jusqu'au dernier champ !» « En guerre, maintenant !»
Il remonta en selle et lança son cheval au galop.
« N'est-ce pas, Lormet ? » cria-t-il dans le vent de la course, « que la terre ici a meilleur son sous le sabot de nos chevaux ?»« Certes, monseigneur, certes !» répondait le tueur au cœur tendre qui partageait en tout les opinions de son maître. « Mais vous avez votre cotte flottante, ralentissez un peu que je vous réajuste !»
Ils chevauchèrent un moment ainsi, puis le plateau s'abaissa brusquement, et là, Robert découvrit, scintillante sous le soleil, dans une vaste prairie, une armée de 1800 cuirasses venue l'accueillir. Il n'aurait jamais cru trouver ses partisans si nombreux au rendez-vous.
« Eh, mais Varenne, c'est un beau travail que tu as fait là, mon compère !» s'écria Robert ébloui.
Dès que les chevaliers d'Artois l'eurent reconnu, une immense clameur s'éleva dans leur rang.
« Bienvenue à notre comte Robert ! Longue vie à notre gentil seigneur !»
Et les plus empressés lancèrent leurs chevaux vers lui. Les grenouillères de fer se heurtaient, les lances oscillaient comme une autre moisson.
« Ah, voici Caumon ! Voici Soistre ! Je vous reconnais à vos écus, mes compagnons !» disait Robert.
Par l'avantail levé de leurs casques, les cavaliers montraient les visages ruisselants de sueur, mais que l'allégresse belliqueuse épanouissait. Beaucoup, petits sires de campagne, portaient de vieilles armures démodées, héritées d'un père ou d'un grand-oncle, et qu'ils avaient fait ajuster tant bien que mal à leur mesure. Ceux-là, avant le soir, se blesseraient aux jointures, et leur corps serait couvert de croûtes saignantes. Tous, d'ailleurs, avaient dans le bagage de leurs valets d'armes un pot d'onguent et de bandes de toile pour se panser. Au regard de Robert s'offraient tous les échantillons de la mode militaire depuis un siècle, toutes les formes de haumes et de cervelières. Certains de ces haubères et de ces grosses épées dataient de la dernière croisade. Des élégantes provinces étaient empanachées de plumes de coq, de faisan ou de paon. D'autres avaient la tête surmontée d'un dragon doré. Et l'un même s'était plu à visser sur son haume un buste de femme nue qui le faisait beaucoup remarquer. Tous avaient repeint de frais leurs courts écus où éclataient en couleurs criardes leurs signes d'armoirie, simples ou compliqués selon leur degré d'ancienneté de noblesse, les marques les plus simples appartenant forcément aux plus vieilles familles.
« Voici Saint-Venant, voici Longvilliers, voici Nédonchel, » disait Jean de Varennes, présentant les chevaliers à Robert. « Votre féal, monseigneur, votre féal !» disait chacun à l'appel de son nom. « Féal, Nédonchel, féal, Bayancourt, féal, Piquigny !» répondait Robert en passant devant eux.
À quelques genoux redressés et tout fiers d'être harnachés en guerre pour la première fois, Robert promit de les armer chevalier lui-même s'il se montrait vaillant dans les prochains engagements. Puis il décida de nommer sur le champ deux maréchaux, comme dans l'Ost royal. Il choisit d'abord le sire de Haut-Pont-Lieu, qui avait travaillé fort activement à rassembler cette noblesse tapageuse.
« Et puis je vais prendre, voyons, toi, Beauval !» annonça Robert. « Le régent a un Beaumont pour maréchal. Moi, j'aurai un Beauval !»
Les petits seigneurs friands de jeux de mots et de calembours acclamèrent en riant Jean de Beauval, qui fut ainsi désigné à cause de son nom.